Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, pas si sage. Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. Vous avez été membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Vous en avez tiré un ouvrage, Une sociologue au Conseil constitutionnel. C'était chez Gallimard en 2010. Ce n'était pas un livre de souvenirs, mais une analyse sur la façon dont fonctionne cette institution et celles et ceux qui y travaillent. Une institution qui fêtera mardi prochain le 60e anniversaire de son installation. Le Figaro a fait le décompte. En 60 ans, 82 personnes ont été nommées rue de Montpensier, le siège du Conseil, dans le quartier du Palais-Royal à Paris. Le plus souvent des hommes, même si le Collège des Sages s'est féminisé ces dernières années. Alors si le Conseil constitutionnel refait parler de lui dans l'actualité, ce n'est pas seulement en raison de cet anniversaire, mais parce que trois nouveaux membres s'apprêtent à le rejoindre pour les 9 années à venir. L'ancien ministre de l'Agriculture Jacques Mézard, nommé par le Président de la République. Le sénateur François Pillet, choisi par le Président du Sénat. Et surtout Alain Juppé, le candidat du président de l'Assemblée nationale, qui va remplacer un ancien Premier ministre, Lionel Jospin, et en retrouver un autre, Laurent Fabius. Or, ce jeu de chaises musicales fait grincer quelques dents du fait du profil des nouveaux entrants, des politiques et non des juristes, alors que le travail du Conseil consiste avant tout à s'assurer de la conformité des lois avec la Constitution de la Ve République. Ces critiques témoignent peut-être aussi d'une inquiétude à l'égard d'une institution qui a certes acquis progressivement sa place dans le système républicain et son indépendance, mais qui reste malgré tout fragile, comme vous le confiez à un conseiller durant votre mandat. Il y a des moments où le Conseil doit se faire oublier, sinon on va encore parler du gouvernement des juges, un reproche qui d'ailleurs n'est pas toujours dénué de fondement. Alors le Conseil constitutionnel pas si sage, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Dominique Schnapper. À l'époque, vous aviez été nommé, vous, par le président du Sénat, Christian Poncelet. J'imagine que vous avez dû vivre ça comme une aubaine que d'être nommé dans cette institution, puisque vous êtes sociologue. C'était un poste d'observation absolument génial pour vous.
Je n'ai pas eu le sentiment que c'était une aubaine sur le moment. J'ai beaucoup hésité à accepter parce que quand j'ai eu un premier coup de téléphone en me disant « on ne peut rien dire, mais si vous étiez nommé, est-ce que vous ne refuseriez pas ?» Ma première réaction a été « mais je ne suis pas juriste ». Et j'ai demandé à réfléchir, j'ai pris 2 jours, c'est mon époux m'a poussé en me disant « tu n'as rien fait pour ça », ce qui était le moins qu'on puisse en dire. « Mais si on te le propose, tu ne peux pas refuser ». Et donc j'ai accepté et finalement Monsieur Poncelet m'a effectivement nommé. Alors les critiques qui se sont exprimées
Et les réactions d'ailleurs sur le fait que vous ne soyez pas juriste à l'époque, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'on a considéré que c'était peut-être une nomination un peu incongrue?
À ma connaissance, mais je ne lisais pas beaucoup les juristes à l'époque, à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup de critiques. Mais enfin, il faut penser que c'était l'ancien Conseil constitutionnel et qu'il a changé depuis la réforme de la QPC. Donc on y reviendra sans doute pour expliquer que... Mais à ma connaissance, ça n'a pas suscité de protestations, mais peut-être que je les ai ignorées. Parce que ça, chaque fois qu'il y a des nouvelles nominations, c'est-à-dire tous les 3 ans, il y a beaucoup de critiques. Et en général, les critiques sont du même ordre, et c'est le cas cette fois-ci. Ces nominations sont trop politiques et elles ne sont pas assez juridiques. Alors en particulier, les professeurs de droit sont toujours extrêmement critiques, ce qu'on peut comprendre.
Écoutons justement une de ces critiques. Alors elle vient pas de professeurs de droit, même s'il y en a eu, mais d'une personnalité politique par rapport à la nomination en particulier d'Alain Juppé. Cette critique, elle émane de Marine Le Pen.
Je vois que le Conseil constitutionnel est devenu une sorte de super maison de retraite des responsables politiques qui ont été battus. Tout cela pour pouvoir s'assurer, en réalité, la fidélité pour le président de la République d'une personne comme Alain Juppé, car on a quand même tous le sentiment que c'est en récompense, en remerciement du soutien que M. Juppé a exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron. Toutes les institutions de notre pays sont aujourd'hui dévoyées. Et c'est probablement une des raisons de la colère.
Ouais, une nomination en guise de récompense pour soutien rendu au président de la République. Dominique Schnapper, est-ce que la critique formulée par Marine Le Pen vous paraît totalement injustifiée? Ou bien est-ce que, en tout cas, dans l'histoire du Conseil constitutionnel, on retrouve quand même des nominations qui sont des nominations très politiques?
Je pense qu'elle est tout à fait excessive et dans toutes les nominations du Conseil constitutionnel, et celle de cette année n'échappe pas à la règle, on nomme deux politiques et un haut fonctionnaire, ou deux hauts fonctionnaires et un politique. Ça dépend des saisons, pour des raisons diverses. Et le Conseil a été construit, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel a été construite par cette haute fonction publique et ses hommes politiques. Mais toutes les institutions de ce type, toutes les cours suprêmes, ont toujours des élections qui ont une dimension politique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la Cour suprême aux États-Unis. Évidemment, on y nomme des gens qui ont une compétence juridique beaucoup plus affirmée et toute une carrière juridique, mais nous savons très bien que dès qu'ils sont nommés, on sait s'ils seront libéraux ou conservateurs et que
Et est-ce qu'on peut en dire autant alors du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire est-ce que le fait par exemple de nommer une personnalité qui vient de la droite, comme c'est le cas d'Alain Juppé, ça veut dire que s'il est dans une majorité de personnalités qui viennent également de la droite, le Conseil constitutionnel sera plutôt à droite, ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça?
C'est beaucoup plus compliqué parce que les différences d'appréciation, en tout cas telles que j'en ai fait l'expérience, n'étaient pas droite-gauche. Les votes, quand il y avait des votes, ce n'était pas des droites. À l'époque, c'était beaucoup plus, disons, républicains-libéraux qui donnaient des... Et surtout, selon les cas, il y avait des majorités, puisqu'il faut une majorité par définition, quand on est où on est d'accord et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ou bien il faut une majorité. Et les majorités n'étaient pas les mêmes selon les problèmes. Il n'y avait pas, une fois pour toutes, la majorité et l'opposition, c'est-à-dire, quand j'y étais, il y avait une très très forte proportion de gens nommés par la droite, et il y avait des divisions, à peu près, sur tous les sujets qui ne suivaient pas les deux personnes qui étaient nommées par la gauche et les sept autres qui étaient nommées par la droite.
Vous évoquez dans le livre, Dominique Schnapper, le pouvoir assimilateur du Conseil constitutionnel qui fait que les orientations politiques finissent par s'estomper
s'affaiblir
devant
en tout cas. Elle reste évidemment, mais elle s'affaiblit devant la fonction. Les hommes politiques sont en fin de carrière, ils n'attendent rien à la suite de la carrière. Certains d'entre eux ont une certaine élégance à bien montrer qu'ils ne répètent pas les opinions du parti dont ils viennent et qu'ils veulent décider juridiquement. Alors, bien entendu, le Conseil constitutionnel est proche du monde politique. Le droit constitutionnel est un droit très proche du politique et les membres, les soi-disant sages, vous avez dit pas si sages que ça, bien entendu, ils ne sont pas sages, simplement, ils ne sont pas là pour être partisans, c'est tout ce que ça veut dire. Et il y a un effet du Conseil sur des hommes politiques dont c'est la dernière fonction et qui, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, ont une certaine volupté justement à ne pas suivre les indications d'un parti. Ils sont là libres finalement d'apprécier et d'apporter leur jugement indépendamment de ce que leur dit leur parti. Or, dans leur vie politique, ils ont souvent été contraints par la logique partisane, à dire des choses qu'ils ne pensaient pas complètement.
C'est d'ailleurs sans doute un des intérêts que de nommer des personnes qui ont déjà l'essentiel de leur carrière derrière eux, que de ne pas attendre forcément, disons, de rétribution une fois qu'ils seront sortis du Conseil constitutionnel. Et puis il y a aussi l'organisation de ce Conseil constitutionnel qui essaie de garantir l'indépendance des conseillers, ils sont irrévocables, donc ça c'est important.
Ils sont irrévocables.
Et le mandat n'est pas renouvelable.
Et le mandat n'est pas renouvelable.
Donc ils ne vont pas faire campagne pour obtenir un deuxième mandat.
Voilà, ils ne vont pas céder au gouvernement avec l'idée que le gouvernement risque de les nommer à nouveau. Ils sont là pour 9 ans, ce qui est d'ailleurs, je crois, un petit peu court. En Espagne, ils sont là pour 12 ans, c'est sans doute une meilleure disposition. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Et donc, ils n'attendent rien du gouvernement, puisque à la sortie du Conseil constitutionnel, là, ils entrent à la retraite pour la majorité d'entre eux.
Pour autant, ça n'empêche pas certaines proximités. Vous vous rappelez dans votre livre, vous évoquez les mémoires de celui qui a été le premier président du Conseil constitutionnel, Léon Noël, qui dans ses mémoires, alors lui, mais assumé tout à fait, peut-être vous dites de manière un petit peu naïve, mais la relation très étroite qu'il continue à avoir avec le général de Gaulle pendant son mandat de président du Conseil constitutionnel.
Oui, mais ça, c'est vraiment les débuts du Conseil constitutionnel. Et le début du Conseil constitutionnel, Léon Noël était un instrument du général de Gaulle. Et ça, les mémoires sont passionnantes à cet égard. Mais l'évolution du temps, l'évolution de l'institution a fait qu'on n'est plus du tout dans cette situation. Alors, ce qui est vrai, c'est que les conseillers qui font partie du monde politique gardent évidemment des relations naturelles avec le monde dont ils viennent. Et Et je me souviens d'un expliquant pourquoi la décision avait été prise au ministre, parce qu'ils s'étaient rencontrés dans l'écho à l'Assemblée nationale. Ils font partie du monde politique. Et donc, il y a des échanges et des éventuellement des discussions. Mais c'est le cas dans toutes les cours suprêmes. Elles ont toujours une dimension politique, parce que les décisions ont des conséquences politiques. Et donc, les conseillers ne peuvent pas ne pas prendre en compte les conséquences politiques des décisions qu'ils prennent pour des raisons juridiques.
Ça se passe comment d'ailleurs à l'intérieur du Conseil constitutionnel, entre les conseillers qui viennent du monde politique et ceux, puisque ça constitue la majorité des membres, ceux qui viennent du monde juridique, les professeurs de droit, les juristes?
Ah, il peut y avoir des conflits. Il y a des professeurs de droit, il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu. Le dernier, c'était mon ami Jean-Claude Colliard, aujourd'hui disparu, mais qui avait été aussi directeur de cabinet de François Mitterrand et de Laurent Fabius. Donc il avait une expérience et une pratique de professeur de droit, mais il avait aussi une dimension politique. Des purs professeurs de droit, il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais il y a des réactions différentes des anciens hommes politiques, ils cessent de l'être en arrivant, et de ceux qui ont plutôt une formation de juriste, en général passé par la haute fonction publique. Et il y a quelques magistrats, il y a le secrétaire général successivement du Sénat, donc des gens qui sont plus formés. Eh bien, il y a des attitudes un peu différentes, et je crois qu'il y a un rapport à la décision qui est un peu différent. Et je crois que le fait que le mélange des deux est utile, parce que justement, c'est un droit qui tout de même est très inséré dans l'ordre politique. Cela dit, je trouve que symboliquement, c'est dommage qu'il n'y ait plus un professeur de droit, et ça illustre un petit peu la perception légèrement méprisante des conseillers d'État pour les enseignants. Et en tant qu'enseignante, je me sens solidaire de mes collègues des facultés de droit qui sont effectivement très peu représentés au Conseil depuis plusieurs décennies.
Olivier Duhamel, spécialiste de droit constitutionnel, voit dans les trois dernières nominations la preuve d'un grand mépris pour le monde du droit en général. Donc vous partagez ce point de vue?
Peut-être pas le monde du droit, mais le monde du droit académique.
Oui, le monde du droit académique, voilà, qui est un peu plus précis. Le Conseil constitutionnel et son indépendance, ça a été, on va dire, un combat qui a mis du temps à s'affirmer, qui n'est peut-être pas achevé. Il y a quand même un moment charnière, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un moment charnière. Le premier, en tout cas, c'est 1971, qu'on pourrait qualifier de déclaration d'indépendance du Conseil constitutionnel, ouais. Dominique Schnapper.
Oui, il y a une grande étape qui est 71-74. En 71, le Conseil constitutionnel introduit dans une décision, vu la Constitution, et ajoute « et son préambule ». Et son préambule de la Constitution de 58 renvoie lui-même au préambule de la Constitution de 1946 qui affirme les droits de l'homme qui ont été proclamés en 1789 et les complète par l'ensemble des droits sociaux qui sont affirmés à cette période. Et donc, en renvoyant à son préambule, le Conseil constitutionnel se donnait le droit de juger de la conformité des lois qui lui étaient soumises à l'ensemble des droits politiques et des droits sociaux théoriques qui organisent notre société.
C'est une décision qui a été prise en réaction à une loi qui visait à instaurer un contrôle administratif pour la déclaration des associations. Donc, oui. Lui a été opposée la liberté d'association, en prenant justement pour base notamment le préambule de la Constitution de 46 et de 58. Écoutez ce qu'on disait à propos de ce moment fondateur pour le Conseil constitutionnel, un grand juriste qui fut membre du Conseil de 1980 à 1989, Georges Vedel, le doyen Vedel. Il évoquait cet épisode dans l'émission À Voix Nue sur France Culture.
Et le dernier professeur de droit qui a été, en tant que professeur de droit, et seulement en tant que professeur de droit, membre du Conseil constitutionnel.
Voilà, et ce témoignage, il remonte à 1997.
La loi n'était pas liberticide, le restreignait, mais assez peu et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les facilités de déclaration. Mais elle fut l'occasion d'un combat d'idées dans lequel il y avait des éléments politiques, mais sont finalement les juristes qui ont saisi l'occasion. Et l'occasion, c'était de dire que les textes constitutionnels dont le Conseil avait la garde, ce n'était pas seulement la Constitution dans les articles 1er à 92 et quelques, mais que c'était aussi les textes annexes que la Constitution rappelait, c'est-à-dire la Déclaration des droits et le préambule de 1946, c'est-à-dire la Charte des libertés. Et ainsi le Conseil devenait le gardien, non pas d'une mécanique institutionnelle des rapports entre le Parlement et le gouvernement, de la manière de voter les lois, mais réellement des principes fondamentaux de notre droit public et des droits de l'homme.
À la Georges Vedel en 1997.
Rien à ajouter, c'est parfait.
C'est un sacré pouvoir, en tout cas, que s'est octroyé le Conseil constitutionnel à travers cette décision. Parce qu'à partir de là, il devient quand même un élément incontournable de la construction de la loi en France.
Depuis qu'il avait été fondé, il y avait une discussion pour savoir si c'était seulement la Constitution ou la Constitution et le préambule. La chose n'avait pas été décidée. Comme Léon Noël, le premier président, était soumis au général de Gaulle, il a eu tendance à réduire le rôle du Conseil constitutionnel. Et donc, vous remarquerez que 71, c'est après 69, c'est-à-dire après le départ du général de Gaulle,
ouais, que... Pas sûr que le Conseil se serait permis
cette audace. Les mauvaises langues ajoutent qu'il y avait des raisons personnelles à la décision de M. Palevski. Peu importe, c'était dans la logique de l'extension du droit à la conformité à la loi. Mais cette décision n'aurait jamais eu la même portée si en 1974, il n'y avait pas eu la réforme introduite par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et donnant à 60 députés ou 60 sénateurs le droit de soumettre au contrôle de conformité à la Constitution les lois qui viennent d'être votées en donnant un temps très court pour prendre cette décision. Parce que d'un coup, la réforme de 1974 a donné à l'opposition un moyen de se référer au Conseil constitutionnel et de poser le problème de la conformité de la loi qui venait d'être votée à la Constitution. Et la conjugaison de 71-74, c'est le Conseil constitutionnel que moi j'ai connu, puisque la dernière réforme fondamentale, c'est celle des questions prioritaires de constitutionnalité.
Voilà, la réforme de 2008.
J'ai siégé dans le cadre instauré par la double révolution 1971-1974.
1974, c'est très intéressant, Dominique Schnapper, parce que on voit à la fois il y a un Parlement qui peut être assez réticent à voir ce Conseil constitutionnel s'octroyer une partie de la construction de la loi, notamment, alors si c'est pas forcément directement, mais indirectement à travers sa jurisprudence, mais aussi il obtient un outil qui lui permet de s'en servir dans le jeu politique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. La menace d'une saisine du Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité de la loi fait partie aujourd'hui du travail parlementaire.
Oui, les parlementaires ont toujours, dans la tradition française, ont toujours été hostiles à toute idée de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Ils s'y sont opposés tout au long de l'histoire parlementaire. Et le Conseil a commencé comme une espèce de conseil politique dont le rôle était très, très marginal. Et puis, par la logique même de son institution, par la logique des textes de la Constitution qu'il organise, il a pris, et par cette réforme, il s'est rapproché de plus en plus d'une Cour suprême. Mais toujours dans l'hostilité du monde traditionnel, du monde parlementaire traditionnel. Mais en même temps, en particulier les sénateurs, moi je me souviens d'avoir entendu dans le salon même du Conseil constitutionnel, lors d'un colloque, un sénateur affirmant le caractère absolument scandaleux que 9 personnes élues, n'ayant aucune légitimité, que la légitimité que donne l'élection, puissent se permettre de remettre en cause ce que les représentants du peuple avaient élaboré, et de façon assez longue. Enfin, le processus est long.
Sauf que quand ils sont dans l'opposition, finalement, voilà. Ça les arrange parfois.
Mais comme ça arrive, comme ça existe, comme les textes de loi l'imposent, comme le poids politique du Conseil s'est progressivement, sans être une Cour suprême, s'est progressivement rapproché des pratiques d'une Cour suprême, ils savent l'utiliser, puisque évidemment, ça pourrait faire qu'on ne peut pas adopter une loi qui ne serait pas conforme à la Constitution. Cela dit, il est arrivé que les deux assemblées se mettent d'accord pour ne pas soumettre au Conseil constitutionnel une loi dont ils savaient qu'elle ne serait pas, elle serait probablement jugée comme non conforme à la Constitution. Donc le jeu, ça fait partie du jeu politique et de façon qui est éventuellement différente.
Et il n'y a pas que les parlementaires, Dominique Schnapper, qui en jouent, il y a aussi le président du Conseil constitutionnel actuel, Laurent Fabius, qui déclarait il y a quelques semaines sur RTL à propos de la loi anti-casseur, il disait, il faut savoir que la loi, une fois adoptée, il est archi-probable qu'elle va nous être déférée. C'est aussi une façon de mettre un peu la pression sur le gouvernement et sur la majorité pour dire attention, ne faites pas n'importe quoi parce que sinon, nous, votre loi, on va la censurer.
Oui, j'ai trouvé d'ailleurs que cette intervention n'était pas tout à fait conforme à la tradition de discrétion du Conseil constitutionnel, mais probablement avait-elle un intérêt politique, puisque elle rappelait malgré tout les principes de droit. Il faut que ce soit conforme à la Constitution. Mais il me semble que c'était une intervention plus politique que le Conseil constitutionnel tel que je l'ai connu.
Logiquement, la place qu'occupe aujourd'hui, après 60 ans, le Conseil constitutionnel devrait contribuer à rendre la loi de meilleure qualité. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez aujourd'hui, mais en tout cas, dans votre livre, Dominique Schnapper, une sociologue au Conseil constitutionnel, j'ai notamment relevé ce passage. La multiplication des lois bavardes est révélatrice des limites du pouvoir du Conseil. Combien de fois ai-je noté dans mon journal que les conseillers déploraient l'inutilité et la mauvaise rédaction d'une loi, mais concluaient avec regret qu'elle n'était pas pour autant contraire à la Constitution, car une mauvaise loi n'est pas pour autant inconstitutionnelle.
Oui, mais je n'ai pas à ajouter. C'est le Parlement qui élabore des lois. Il en élabore beaucoup et c'est souvent trop vite. La grande loi de 1905 sur laquelle nous vivons, il y a eu 3 ans de débat avant qu'elle soit adoptée. Et c'est une loi dont l'effet politique a été admirable. Donc, très souvent, nous trouvions en effet que les lois étaient... elles donnaient des indications, elles n'étaient pas des lois qui permettaient d'appliquer certaines décisions et éventuellement de sanctionner ceux qui ne la respectaient pas. C'était des lois de bonne volonté où on affirmait les valeurs de l'air du temps et que ce bavardage n'était pas vraiment ce pourquoi une loi est écrite. Mais en même temps, il n'était pas du propos des conseillers, ni de réécrire la loi, ni de porter du jugement sur son contenu, mais simplement de dire si elles étaient contraires ou pas contraires à la Constitution.
Il n'était pas toujours non plus de l'intérêt, et sans doute en est-il toujours de même aujourd'hui, de l'intérêt du Conseil constitutionnel de trop censurer les lois. Là encore, je vais citer un extrait de votre livre. Un président avançait parfois qu'il avait épuisé son quota de censure, un président du Conseil, qu'il avait épuisé son quota de censure pour l'année ou la session parlementaire en cours. Faut pas, quand on est au Conseil constitutionnel, trop censurer, parce que l'institution garde quand même une forme de fragilité qui fait que si elle censurait trop, on pourrait la remettre en cause.
Oui, mais le président que je cite anonymement était quelqu'un qui était fondamentalement hostile à l'existence du Conseil constitutionnel, comme les parlementaires d'un certain âge à l'époque. Et la fragilité du Conseil était plus évidente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense que la QPC, l'âge d'abord, parce que les institutions sont comme certains êtres humains, avec l'âge, ils prennent une autorité. Et d'autre part, la QPC qui a changé
la question prioritaire de
constitutionnalité, qui a beaucoup changé le rôle du Conseil. Donc, la fragilité est moins évidente qu'elle ne l'était à ce moment-là. Je pense qu'elle a acquis une certaine forme de... Le Conseil a acquis une forme de légitimité depuis une dizaine d'années, qu'il est organisé, qu'on a donné aux justiciables le droit, à travers un procès, de saisir le Conseil constitutionnel sur des lois qui peuvent être très anciennes, ce qui était impossible avant.
Voilà, légitimité qui est plus importante aujourd'hui, même si vous faites le constat, vous, quand vous rejoignez le Conseil constitutionnel au début des années 2000, que s'agissant de l'ordre protocolaire, alors c'est une institution qui est un petit peu à l'écart par rapport, par exemple, à ce que peut être la Cour de cassation ou alors encore plus le Conseil d'État, c'est-à-dire des moyens modestes et une place qui est aussi modeste dans le protocole. Mais vous évoquiez le fait que ce conseil a acquis au fil des années presque le statut d'une cour sans en avoir le nom. On parle bien d'un conseil constitutionnel. Ça veut dire que l'autorité qui ferait de ce conseil une véritable cour n'est peut-être pas encore acquise. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
On n'est peut-être encore pas au niveau, en tout cas, de ce qui pourrait être un exemple de cour constitutionnelle. C'est en Allemagne et c'est la cour de Karlsruhe.
Oui, c'est une institution majeure, cette cour de Karlsruhe, de la vie politique d'outre-Rhin, qui s'impose aux autres pouvoirs institutionnels du pays. On se souvient même que plusieurs grands accords européens signés par Angela Merkel avaient dû attendre la validation de Karlsruhe. Par exemple, le plan d'aide à la Grèce en 2011 ou alors le mécanisme européen de stabilité en 2012. Alors, j'ai interrogé sur ce sujet la politologue allemande Ulrike Gero. La cour constitutionnelle allemande est-elle vraiment l'institution la plus importante de la vie politique d'Outre-Rhin. On l'écoute.
D'une certaine manière, oui, c'est bien une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est aussi les alliés qui ont institutionné l'Allemagne d'une sorte telle que jamais un président aurait trop de pouvoir et que toute législation soit suspendue par un cours qui, certes, a une influence, un impact institutionnel très fort, mais aussi une acceptation, une acceptance dans la population très élevée. Donc, je vois les problèmes avec les décisions européennes, mais juste pour signaler que ça soit l'avortement ou que c'était dans les années 90, par exemple, la décision des Airways. Est-ce que l'Allemagne peut employer des soldats hors pays? Tout ça était sous réserve d'une décision de la Cour.
Et cette prééminence de Karlsruhe est-elle bien acceptée, d'une part par la classe politique allemande, y compris les formations populistes comme l'AfD, et d'autre part par les partenaires européens de l'Allemagne?
Si on regarde ça analytiquement, une telle importance d'un cours allemand qui n'est pas élu d'une certaine manière et qui en fait dispose des décisions politiques qui ont un effet sur toute l'Europe, c'est un problème notamment sur ceux qui sont européens mais pas allemands, hein, donc les Français, les Finlandais et tout. Et on l'a bien vu pendant la crise de l'euro, j'imagine que Sylvie Goulard, qui est maintenant la vice-présidente de la Banque de France à l'époque, quand il y avait ce suspense sur l'aide grecque, avait écrit dans la FAZ, un grand journal allemand, un article où reprocher en fait à l'Allemagne une espèce d'impérialisme constitutionnel, Verfassungsimperialisme, c'est-à-dire que l'Allemagne, par son cours, prend des décisions européennes qui touchent toute l'Europe, alors que pas tout le monde est allemand. Voilà, il y a déjà ça. Quant à la classe politique allemande, la Cour est très respectée, quitte à dire que, très malheureusement, parce que c'est comme ça, la Cour est très instrumentalisée. Quand vous parlez AfD, la plupart de ces jugements qu'on a vus pendant la crise de l'euro, que ce soit les ONG, que ce soit l'arrêt sur le traité de Lisbonne, ou que ce soit la législation de la Cour dans la crise grecque, il y avait ces arrêts qui étaient lancés par des mouvements, AfD n'existait pas, mais par des gens qui sont, disons, à droite du spectre politique, justement pour toujours questionner si le pas d'intégration européenne que fait l'Allemagne est encore conforme à la constitution allemande. Donc en fait, la Cour, très malheureusement, justement dans toutes ces décisions européennes, est très souvent lancée par des gens, disons, très conservateurs, très allemands, très nationaux, pour justement questionner le décret de l'intégration allemande.
Voilà, c'était la politologue Ulrike Guéraud, présidente et fondatrice du think tank Open Democracy Lab, basé à Berlin.
Une réaction, Dominique Schnapper?
La Cour de Karlsruhe joue un rôle beaucoup plus important que le Conseil constitutionnel. D'une certaine façon, c'est pas comparable.
C'est un modèle à suivre.
Je pense que les institutions ont leur logique et leur histoire et qu'il faut à la fois connaître les institutions extérieures, savoir s'en inspirer, mais aussi savoir qu'on ne transforme pas une institution dans le monde, ni dans le monde politique, ni dans la société en général.
Et pour connaître une institution telle que le Conseil constitutionnel de l'intérieur, cette fois, je renvoie donc à votre ouvrage, Dominique Schnapper, une sociologue au Conseil constitutionnel, que vous avez publié chez Gallimard dans la collection Essais. C'était en 2010, mais on peut encore le trouver, je pense, aisément. Puis je renvoie, bien sûr, à votre dernier ouvrage, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs, publié là, également chez Gallimard. C'était il y a quelques mois de cela. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son Jordan Fuentes, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 2h45, vous retrouverez la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre. Et dans un instant, ce sera le journal de 2h30 sur France Culture.